Docteur Borde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans nos studios de Fréquence Mistral à Digne pour nous parler de la campagne qui concerne le cancer du côlon.
Oui.
Alors, vous travaillez à l'hôpital de Digne. Est-ce que la campagne qui a commencé depuis quelque temps, vous avez eu des retours ?
Oui, alors oui et non. Le mois de mars est consacré effectivement au dépistage du cancer colorectal. C'est pendant ce mois où on va parler plus que d'habitude de ce dépistage, parce qu'on estime que c'est quelque chose d'important et que le message doit passer de plus en plus auprès de la population. Voilà. Le cancer du côlon est une maladie qui est fréquente. Il y a plus de 40 000 nouveaux cas par an en France, qui représentent dans le département plus de 100 personnes qui sont atteintes par an de cette maladie. C'est un cancer qui reste malheureusement grave, puisque lorsqu'on le diagnostique, c'est souvent un petit peu tard, et que là, malgré tous les traitements, tous les progrès qui ont été faits depuis les dernières années en termes de chirurgie, de réanimation, de chimiothérapie ou d'autres, on reste encore avec une mortalité qui est de l'ordre de 50%. Donc une personne sur deux atteinte d'un cancer du côlon, malheureusement, on n'arrivera pas à le guérir. Par contre, lorsqu'on dépiste cette maladie, c'est-à-dire qu'on fait un diagnostic très tôt dans l'évolution, à ce moment-là, le pronostic est complètement différent, puisque avec une intervention chirurgicale qui est relativement simple, on arrive à guérir plus de 9 patients sur 10. Voilà. Donc l'intérêt du dépistage en termes de mortalité n'est plus à démontrer, hein. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que le cancer du côlon se développe pendant des années, un polype se développe pendant des années avant de devenir cancéreux, sans aucun signe clinique du tout. Donc les gens vont bien, sont loin de s'imaginer qu'ils ont dans leur ventre quelque chose qui est en train de grossir et qui risque de devenir méchant dans quelques années. Et puis c'est bien normal quand on va bien, hein. On va bien, on ne va pas forcément voir son médecin. Donc c'est à ce moment-là, quand on va bien, qu'il faut faire le dépistage. Le dépistage, c'est simple. Un nouveau test est apparu depuis un an et demi, qui est beaucoup plus facile à utiliser, qui est beaucoup plus sensible. Ça se fait sur un échantillon de sel, ça recherche la présence de sang dans les selles. Et si ce test est positif, il faut faire une coloscopie derrière pour trouver le polype ou l'enlever, puis, ou trouver un petit cancer. Voilà. À partir de 50 ans, surtout quand on va bien, il faut faire ce dépistage.
Et il y a des causes pour ce cancer ?
Alors, oui et non, c'est une vaste question, ça, les causes du cancer. La plupart du temps, un patient qui est atteint d'un cancer, la première question qu'il va vous poser quand vous lui donnez son diagnostic, c'est pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Bon, voilà. Il y a certains cancers pour lesquels les origines sont évidentes. Le cancer du poumon est très lié au tabac, par exemple. Mais la plupart des cancers, plus de 70% des cancers, ne sont pas liés forcément à grand-chose, si ce n'est à pas de chance. Quoi. Voilà. On est en permanence en train de faire des divisions cellulaires qui peuvent comporter des erreurs. Vous faites en moyenne 80 millions de divisions cellulaires par jour. Donc moi, quand je fais 80 millions de fois par jour la même chose, je peux me tromper. Et voilà, donc une erreur dans une division cellulaire peut engendrer une cellule cancéreuse et puis se développer. Voilà, depuis tout à l'heure que vos auditeurs nous écoutent et que nous parlons tranquillement de ce problème, vous et moi, on a déjà développé 4 ou 5 cancers. Hein. Voilà, heureusement, on a tout un système qui va lutter contre et qui va faire disparaître ces mauvaises cellules. Ce qui fait que, bon, ben voilà, pas tout le monde va développer cette maladie. Mais ça explique aussi pourquoi elle est si fréquente. Alors, en ce qui concerne les causes du cancer colorectal, on sait que l'alimentation y est probablement pour un petit peu. Les régimes riches en fibres alimentaires, c'est-à-dire en légumes, en fruits, sont plutôt protecteurs de cette maladie. Et les régimes plutôt carnés, en hydrates de carbone, sont plutôt promoteurs. Mais enfin, je pèse mes mots, hein. Je dis plutôt, c'est pas parce que vous mangez un saucisson que vous allez avoir un cancer du côlon, et c'est pas parce que vous mangez de la salade que vous n'allez pas l'avoir, hein. Voilà, il vaut probablement mieux quand même favoriser l'alimentation verte, entre guillemets, plutôt que le reste. Voilà. Mais bon, c'est vraiment à la marge.
On entend tout, un petit peu n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des légumes ou des fruits qui peuvent protéger quelque part d'avoir un cancer éventuel ?
Oui et non, effectivement, on entend plus n'importe quoi que tout, hein. Si on savait vraiment les tenants, les aboutissants de cette maladie, si on connaissait tous les facteurs de risque, si on savait influer dessus, bien sûr que ça saurait au plan général et tout le monde serait au courant de ça. Mais c'est pas si simple que ça. Comme je vous disais tout à l'heure, certains régimes vont être plutôt protecteurs. C'est-à-dire que quand on prend 50 000 personnes qui mangent plutôt des légumes et qu'on les compare à 50 000 personnes qui mangent plutôt pas de légumes, ben dans une population, il y a un petit peu plus de cancer du côlon, de cancer digestif que dans l'autre. Mais c'est pas pour ça qu'on puisse affirmer que l'origine du cancer réside à cet endroit-là. Voilà. Donc, probablement qu'une alimentation saine et équilibrée est meilleure qu'une mauvaise alimentation. C'est évident de dire ça. Mais ça ne va pas vous protéger particulièrement du cancer colorectal et puis tous les... Alors c'est un mot qui est un peu fort, mais enfin tous les charlatans qui vont vous vendre des gélules pour ne pas attraper le cancer s'attaquent d'abord à votre portefeuille avant de s'attaquer à votre bonne santé, quoi. Voilà.
Et pour ce qui en est des différentes façons de protéger les légumes tels que pesticides et compagnie par rapport au bio, est-ce que la tendance qui va pour manger un petit peu mieux quand même est plus bénéfique quelque part, ou c'est les pesticides n'ont aucune incidence sur notre organisme à ce niveau-là?
On n'en sait rien. Ceux qui affirment que les pesticides ont une influence ne peuvent pas le prouver. Ceux qui affirment que les pesticides n'ont pas d'influence ne peuvent pas le prouver non plus actuellement. La médecine, ça avance par la succession des hypothèses posées, des réponses apportées à ces hypothèses et des connaissances qui avancent petit à petit au fur et à mesure des années, des décennies et des siècles. On est obligé de mettre nos hypothèses à l'épreuve pour savoir si l'hypothèse est bonne ou pas bonne. Est-ce que les pesticides entrent en cause dans l'augmentation des cancers? Peut-être, mais on n'a pas de modèle expérimental qui puisse vraiment le prouver. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, hein, qu'il n'entre pas dans le développement des cancers, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas en être certain. Alors, de façon plus générale, pour répondre à votre question, probablement que, évidemment, qu'une alimentation plus saine, sans pesticides, sans produits rajoutés, est probablement meilleure. Ça tombe sous le sens, mais il n'y a rien qui le prouve. Avoir une alimentation saine, ça permet aussi de diminuer l'incidence des maladies cardiovasculaires, hein, ce qui est non négligeable, puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était quand même la première cause de mortalité dans nos pays occidentaux développés. Ce qui n'est plus tout à fait le cas, malheureusement, c'est le cancer qui est passé devant. Se nourrir comme il faut diminue le risque cardiovasculaire, ça on en est certain. Diminuer le risque cardiovasculaire, ça veut dire vivre plus vieux. Et je suis désolé de le dire, mais vivre plus vieux, ça veut dire avoir plus de risque d'attraper un cancer. Alors c'est un peu une boutade que j'aime bien faire pour montrer la relativité des choses. C'est sûr que mieux s'alimenter permet de vivre mieux, plus longtemps, mais ça expose aussi paradoxalement à d'autres risques.
Vous disiez que c'est à partir de 50 ans qu'il faut faire des examens, mais ce cancer colorectal peut intervenir auparavant. Il y a plus, dans l'échelle du temps par rapport à notre vie, est-ce qu'il y a des périodes plus propices pour attraper ce type de, malheureusement, de maladie?
Oui, statistiquement, l'âge moyen de survenue d'un cancer colorectal, c'est 72 ans. En sachant que le cancer colorectal n'arrive pas d'un coup comme ça, mais qui est toujours précédé de l'apparition d'un polype, entre le moment où un polype apparaît et le moment où il se transforme en cancer, il se passe entre 10 et 15 ans. Donc vous faites la soustraction, 72 moins 15, vous arrivez à peu près aux alentours de 50 ans, c'est-à-dire l'âge de début conseillé du dépistage. Après, c'est des valeurs statistiques, je vous ai dit que c'était l'âge moyen, 72 ans. Il y a des cas, malheureusement, chez des gens très jeunes et des cas chez des gens plus âgés. En santé publique, on est obligé de cibler une population, sinon une campagne de dépistage est trop chère et donc inorganisable. La population ciblée est celle de 50 à 74 ans. Actuellement, c'est ça. Ça n'empêche pas, lorsqu'on a des facteurs de risque personnels de cancer colique, c'est-à-dire lorsqu'on a dans sa famille une ou plusieurs personnes qui a été atteinte de cette maladie, ou si on a des maladies inflammatoires, d'en discuter avec son médecin traitant pour faire un dépistage individuel plutôt que 50 ans. Voilà. On n'est pas obligé d'attendre d'être dans la campagne de dépistage de masse, c'est-à-dire d'avoir 50 ans pour faire un dépistage lorsqu'on a des facteurs de risque. Ce dépistage systématique s'adresse aux gens, comme je le disais en introduction tout à l'heure, aux gens qui n'ont rien, qui n'ont pas d'antécédent familial et qui vont bien, qui n'ont pas de signes cliniques, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas chez leur médecin. C'est pour ça que la Sécurité sociale envoie les organismes de dépistage envoient les invitations directement au domicile. Il faut passer par le médecin traitant lorsqu'on a cette invitation, aller le rencontrer, discuter avec lui de l'opportunité de faire ce test ou pas, ou de faire d'emblée une coloscopie, et c'est le médecin traitant qui va vous indiquer la marche à suivre et vous conseiller dans ce domaine.
Est-ce qu'il y a un côté plus rassurant d'aller voir le médecin traitant avant de venir vous voir directement? Directement, en venant vous voir, vous rebasculez vers le médecin traitant ou vous pouvez vous occuper du patient quand il vient vous voir?
Il faut passer par le médecin traitant. Le médecin traitant est celui qui est le plus à même de juger pertinemment de la question, puisqu'il vous connaît depuis longtemps, il connaît votre histoire, il connaît votre histoire familiale le plus souvent, et donc bien sûr que c'est important de passer par lui. Toutes les études qui ont été faites sur le dépistage du cancer colorectal, vous savez, ça a commencé dans les années 60-70, à Dijon avec le professeur Fèvre, donc c'est pas nouveau, les connaissances qu'on a sur le dépistage. On s'est aperçu que lorsqu'on passait par le médecin traitant pour faire se dépister les gens, il y en avait deux fois plus qui se dépistaient. C'est pas pour rien, c'est cette relation de confiance qu'il y a avec le médecin traitant qui est la base de l'acceptation du dépistage. C'est pas simple d'expliquer à une personne que vous allez bien, vous allez faire un dépistage, une recherche de sang dans les selles, si elle est positive, vous allez avoir une coloscopie, c'est une hospitalisation, c'est une anesthésie, c'est une préparation, c'est pas anodin, c'est pas une radio du thorax ou une prise de sang. Donc, je pense fondamentalement que la discussion avec le patient, l'explication, tout ce qu'on peut faire pour le réassurer devant cette démarche qui est difficile à entreprendre pour chacun, c'est le médecin traitant qui est le mieux placé pour gérer tout ça. Ensuite, lorsqu'une personne a des antécédents, comme je disais tout à l'heure, personnels ou familiaux, de polype ou de cancer, il faut qu'il passe par son médecin traitant, bien sûr, mais il adressera là directement au gastro-entérologue pour faire une coloscopie. C'est pas la peine de passer par la case de dépistage organisée, on cherche le sang dans les selles, lorsqu'on a des facteurs de risque.
Et est-ce qu'avec les médecins généralistes, vous vous concertez, vous voyez souvent, pour que vous parliez de ce type de problème, où les médecins vous renvoient directement en ayant eu affaire avec leurs patients, qui vous l'envoient comme ça, sans que vous connaissiez quelque part?
Alors, lorsqu'on a mis en place le dépistage sur le 04, pour quelques années maintenant, nous-mêmes avons été formés à l'INCa, l'organisme qui s'occupe du cancer en France, on a été formés à former les médecins généralistes. Donc, on a dans le 04 eu plusieurs sessions avec eux pour les former. Alors, former, c'est un bien grand mot, ils connaissent évidemment cette maladie, mais enfin c'est plus formé au geste de dépistage qu'à la maladie en elle-même. Donc on a bien sûr commencé à travailler ensemble là-dessus il y a quelques années et on continue d'être en lien dans ce domaine. Et bien sûr qu'ils nous adressent leurs patients sans se poser de questions parce qu'ils savent que c'est ce qu'il faut faire pour leurs patients.
De par votre métier, vous êtes un médecin depuis quelques années maintenant. Vous avez vu évoluer la maladie ou elle stagne? Comment ça se passe?
Alors oui, on a vu des... Alors je vous remercie de dire que ça fait quelques années que je suis médecin, mais bon, voilà, c'est la réalité. Effectivement, ça fait... Le 1er avril, ça fera 23 ans que je suis arrivé à Digne pour travailler à l'hôpital. Bien sûr qu'on voit évoluer les choses. Alors malheureusement pas toujours dans le bon sens. Le cancer du côlon, comme beaucoup d'autres cancers, a une fréquence qui a augmenté. Pas tant que ça, mais quand même. Voilà, il y a 20 ans, c'était 36 000 nouveaux cas. Je vous ai parlé tout à l'heure de plus de 40 000. Bon, voilà. C'est probablement lié aussi, en grande partie, au vieillissement de la population. Il y a plus de gens qui arrivent à l'âge de 72 ans maintenant qu'il y a 15 ans ou 20 ans. Donc, voilà, une proportion plus importante qui est capable d'avoir un cancer colorectal. Donc, l'évolution en fréquence de la maladie, mais l'évolution de la mortalité n'a pas suivi. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le même taux de mortalité il y a 20 ans que maintenant, ce qui veut dire que relativement, il y a moins de mortalité. Donc on arrive à faire des diagnostics plus précoces et on arrive à traiter mieux les patients. Néanmoins, le plus grand gain qu'on peut obtenir sur cette maladie, c'est bien par le dépistage. Le dépistage, les études dont je vous parlais tout à l'heure des années 70 ont montré que dans une population dépistée, on arrivait jusqu'à 35% de mortalité en moins. 35% de mortalité en moins, aucune chimiothérapie, aucune thérapie ciblée, aucun traitement très cher ou très compliqué qu'on peut faire actuellement peut apporter d'un coup 35% de mortalité en moins. Voilà, le dépistage, c'est quelque chose de fabuleux de ce point de vue-là. Et l'évolution, depuis que les gens participent au dépistage organisé, nous, on la voit quand on fait les coloscopies, on a revu, heureusement, beaucoup de polypes qu'on voyait moins lorsqu'il n'y avait pas de dépistage. Malheureusement, souvent, on tombait d'emblée sur des cancers qui étaient un peu compliqués à traiter. Et maintenant, de plus en plus, lorsque les dépistages sont positifs et qu'on fait une coloscopie derrière, on trouve des polypes ou même des gros polypes qu'on enlève en même temps que la coloscopie. Et les gens ne se rendent même pas compte qu'en enlevant un polype, on les a guéris du cancer qu'ils auraient eu certainement 5 ans après.
Là, il y a beaucoup de cancers qui se développent malheureusement. Est-ce que le cancer colorectal par rapport au cancer du sein, il y a une courbe ascendante
Oui, voilà, je vous disais que la fréquence est passée de 36 000 à 40 000 en quelques années. Ça suit la tendance globale de tous les, enfin, pas de tous les cancers, mais de beaucoup de cancers augmentés. C'est d'abord essentiellement lié à l'augmentation de l'âge moyen de la population et le pourcentage de personnes âgées qui est plus important maintenant que ce que c'était avant. Voilà. Quand on donne des chiffres bruts sur l'élévation, sur l'augmentation du cancer comme ça, on peut interpréter, c'est pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les pesticides, l'environnement, tout ce qui a pu changer autour de nous dans les dernières années qui a donc forcément ipso facto est responsable du cancer. Peut-être, mais bon, une fois de plus, c'est pas prouvé. Ce qui est prouvé par contre, c'est qu'on vit de plus en plus vieux. Et moi, quand j'étais plus jeune et que j'étais à la faculté, on m'avait appris que pour le cancer de la prostate, à 70 ans, 70% des hommes avaient un cancer de la prostate, à 80 ans, 80%, à 90 ans, 90%. Voilà. Alors, c'est pas toujours des cancers qui évoluent et qui posent des problèmes de santé. Hein. Souvent, à 80, 90 ans, on a d'autres problèmes de santé qui sont prédominants et qui seront la cause du décès. Néanmoins, ça illustre bien le fait que plus on avance en âge, plus on a de risques d'avoir un cancer. Voilà. Et le vieillissement de la population fait qu'il y a ipso facto plus de cancers. Et ça, franchement, ça représente au moins 70 à 75% des causes de l'augmentation du nombre des cancers. Après, on a aussi des cancers chez les gens jeunes. On n'en a pas forcément beaucoup plus qu'avant, mais c'est plus médiatisé, c'est plus discuté, c'est plus connu. Donc on a aussi l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Il n'y en a pas beaucoup plus, il y en a au moins autant, voire un petit peu plus. Et on n'a pas forcément d'idées très précises sur ce qui peut causer tous ces cancers.
Quand les gens disent « c'était mieux avant, on vivait plus sainement », c'est un peu utopique.
Ça dépend ce que c'était avant. La moyenne de vieillissement de la population du temps de Louis XVI, c'était aux alentours de 35 ou 40 ans. Voilà. On assistait hier soir à un film sur la naissance de la sécurité sociale au cinéma de Digne, où les gens rappelaient que au début du siècle, l'espérance de vie en France était aux alentours de 45-50 ans en moyenne. Qu'elle est maintenant à plus de 75 ans. Voilà, donc les progrès de la société, les progrès de la santé, les progrès de tout ça font que l'espérance de vie augmente, la mortalité infantile diminue, donc c'était mieux avant. Oui, peut-être, pour un certain nombre de choses, il y avait moins de pollution, on pouvait se déplacer différemment. C'était peut-être mieux, mais par certains côtés. Mais en ce qui concerne la santé globalement, moi, je préfère me soigner au XXIe siècle qu'au XVIIIe.
Donc, direction médecin généraliste, quand on reçoit le papier de la CPAM, et les personnes qui ne reçoivent pas ce papier peuvent aller directement solliciter le médecin pour prendre rendez-vous avec vous ?
Bien sûr. Alors, théoriquement, le dépistage est relativement bien organisé. Et donc tout le monde doit recevoir le papier. Parfois, on le confond avec d'autres choses et il part directement à la poubelle. Donc, il faut faire un peu attention. Mais sinon, bien sûr, si on ne reçoit pas le papier et qu'on est inquiet, on peut tout à fait en parler à son médecin traitant. Lui, il a tout ce qu'il faut. Il a tous les kits qu'il faut pour vous les distribuer et puis pour que vous puissiez participer au dépistage.